Introduction. L'épistémologie est la partie de la philosophie qui traite la science. L'épistémologie est l'étude critique des sciences. La science n'a pas toujours existé. Comme le souligne Bachelard, elle est une conquête tardive de l'esprit humain. Avant la naissance de la science, d'autres formes de pensée ont existé telles le mythe, la magie et la religion. Ces formes de pensée pré-scientifiques sont dites premières approches du réel, c'est-à-dire premières tentatives d'explication des choses. La science est aussi une approche du réel, mais elle se démarque des autres formes de connaissance et revendique le statut d'une connaissance exacte. Par ces méthodes, la science est aujourd'hui considérée comme le modèle de la connaissance exacte. Mais serait-elle le seul savoir exact comme le prétend le positivisme? Serait-elle une connaissance incontestable? À ces deux questions s'ajoutent d'autres, le stade actuel de la science. Est-ce une raison qui vaut l'inutilité de la philosophie? La philosophie devrait-elle ou non se taire quand la science enfante? La science, malgré ses progrès spectaculaires, arrive-t-elle à satisfaire toute la curiosité de l'homme? La science n'est-elle pas parfois préjudiciable à l'homme? La science ne laisserait-elle pas des zones d'ombre qui exigeraient l'intervention de la philosophie? Grand 1, les premières approches du réel, d'abord. Qu'est-ce le réel? Le réel désigne aussi bien le monde physique que le monde métaphysique. De ce point de vue, une approche du réel désigne l'ensemble des opérations mentales que les hommes mettent en œuvre pour expliquer les phénomènes. Il existe, à ce sujet, plusieurs approches du réel. Le mythe, la religion, la magie, la philosophie et la science. Le mythe est un récit imaginaire transmis par la tradition et qui, à travers les exploits d'êtres fabuleux, dieux ou héros, tente d'expliquer des phénomènes comme l'origine de l'univers, de l'homme, des choses, etc. Le mythe raconte comment, grâce à des êtres surnaturels, une réalité est venue à l'existence. Il est considéré comme sacré. Il ne démontre pas ce qu'il dit, il se contente de le dire. Sa fonction est essentiellement sociale, car il prescrit des règles que les hommes doivent adopter. La religion est un ensemble de pratiques à travers lesquelles l'homme manifeste son attachement à Dieu. Elle repose sur des dogmes immuables et est censée dire une vérité absolue, incontestable, indiscutable pour le croyant. Ce dernier considère comme vrai tout ce que dit la religion et il interprète toute chose selon ce que les textes en ont dit. Par exemple, pour expliquer la conception de l'homme, le religieux partira du créationnisme, là où le scientifique parlera d'évolutionnisme. La magie est une pratique exercée sur les choses et les êtres pour obtenir un effet. Il faut distinguer la magie noire de la magie blanche. La magie noire s'assimile à la sorcellerie, au mauvais sort, alors que la magie blanche relève surtout de la prestidigitation, de l'illusionnisme et des pratiques mystiques de guérison. À partir du verbe ou des incantations, le magicien peut agir sur le réel. Lorsque le magicien arrive à dompter les forces invisibles de la nature, il les utilise pour obtenir des effets bénéfiques ou maléfiques. La magie est une pratique ésotérique, c'est-à-dire réservée aux initiés. La philosophie et la science sont aussi des approches du réel, mais elles sont nées au VIe siècle avant Jésus-Christ, bien après le mythe, la magie et la religion. La philosophie est une discipline qui n'admet pas une définition unanime. Elle a pour origine l'étonnement et est basée sur une remise en question permanente des certitudes. Elle englobait, à l'origine, les sciences qui, avec le temps, ont pris leur autonomie en développant leurs propres méthodes. Grands deux rapports entre la science et les premières approches du réel, on peut se demander quel rapport la science entretient avec les premières approches du réel. S'agit-il de rapports de continuité ou de rupture? Autrement dit, la science est-elle le simple prolongement des premières formes de pensée ou une connaissance radicalement nouvelle qui vient remettre en question les pensées pré-scientifiques? On trouve la réponse chez Auguste Comte et Gaston Bachelard. Selon Auguste Comte, la science devrait dépasser et même supprimer les premières formes de pensée. Il développe son point de vue à travers ce qu'il appelle la loi des trois états. Dans cette loi, Comte décrit le processus de l'évolution de l'esprit humain. La première étape est dite théologique. Pour justifier la réalité, l'homme invoque des dieux et des êtres surnaturels. La deuxième étape est dite métaphysique. Ici, l'esprit humain produit des notions abstraites comme le bien et le mal. La dernière étape est dite positive et elle correspond à l'avènement de la science. Gaston Bachelard a abondé dans le même sens en considérant que les rapports que la science entretient avec les premières approches du réel sont des rapports de rupture, qu'il appelle rupture épistémologique. À son avis, pour que la science se constitue, il a fallu rompre avec les premières approches du réel. Ces dernières ont même constitué pendant longtemps des obstacles à la science. Elles font partie de ce que Bachelard nomme « obstacles épistémologiques ». Il s'agit de tout ce qui a constitué un frein ou un écran à l'avènement de la science. C'est le cas de l'opinion commune, de certaines traditions, croyances et coutumes. Par exemple, certaines traditions, surtout l'Église, a longtemps cru que la Terre est le centre de l'univers. Il a fallu l'avènement de la science pour passer du géocentrisme à l'héliocentrisme. Grand trois rapports entre l'épistémologie et la philosophie 1. Imperfection de la philosophie et importance de la science. La spéculation et l'abstraction ont été conçues par certains comme les bases de l'imperfection de la philosophie. Ceux-là pensent que la philosophie devrait s'élever au-dessus de ces spéculations et viser le concret comme la science. Antoine-Augustin Cournot estime que l'une des imperfections radicales du discours parlé ou écrit, c'est qu'il constitue une série essentiellement linéaire. Il s'inscrit dans la perspective d'une critique acerbe à l'endroit de la philosophie et montre le dessus de la science sur la philosophie. À son avis, la philosophie ne contribue pas à l'épanouissement matériel de l'homme et est en retard par rapport aux réalités vécues par l'homme. On retrouve l'idée de ce retard chez Louis Althusser qui dit « La philosophie se levait tard le soir tombé lorsque la science a parcouru l'espace d'une journée. » Hegel traduit ce retard en ces termes « L'oiseau de Minerve ne prend son vol qu'à la tombée de la nuit », comme pour dire que la philosophie est toujours derrière la science. 2. Imperfection de la science et importance de la philosophie. La philosophie n'est pas superflue, comme le disent certains. Elle est omniprésente et se veut omnisciente. Carl Jaspers dit à cet effet « L'homme ne peut se passer de la philosophie. Aussi est-elle présente partout et toujours. La science ne peut pas épuiser le réel. Elle bute souvent sur des obstacles et c'est à la philosophie de lui venir en aide. » La vision que la science a de l'homme est très limitée, contrairement à la philosophie qui a très tôt compris la complexité de l'homme. La philosophie fixe à l'homme un code de conduite morale dans la société, alors que la science ne se préoccupe ni de la morale, ni des questions existentielles qui angoissent l'homme. Si on analyse les découvertes scientifiques, on se rend compte que la science ne s'occupe pas à rehausser la dignité de l'homme, à l'élever au-dessus de l'humanité, à lui enseigner une morale. Tout au contraire, elle incite l'homme à l'animosité en le dotant d'armes comme les bombes, les armes nucléaires, les gaz toxiques, la détérioration de la couche d'ozone, etc. La science est, aujourd'hui, à l'origine de plusieurs maladies cancéreuses, dont le cancer de la peau causé par les produits de dépigmentation ou par les rayons ultraviolets, conséquence de la destruction de la couche d'ozone. La science est une discipline pour l'homme et contre l'homme, et c'est un paradoxe. Bien qu'elle soit une discipline qui n'a cessé d'étonner l'homme, la science doit néanmoins prendre en compte la morale. Il est grand temps qu'elle intègre dans ses inventions le côté moral. « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », disait François Rabelais. Mais, de l'avis d'Anatole France, les considérations morales de la science ne font que ralentir ses activités. Pour lui, toute création est positive ou négative aux yeux de celui qui la juge. Donc, tout est relatif en science, et il conclut que la science ne se soucie ni de plaire ni de déplaire, elle est inhumaine.